Chapitre 6. L'itinéraire arrêté par Mikowski était clair. Prendre la diagonale du petit pectoral, atteindre le monticule du deltoïde et descendre vers le biceps, en souhaitant que la pente ne soit pas trop vive. Au début, Gott et Lisa voyagèrent assis sur la benne, les fesses à demi enfouies dans le tas de viande séchée. Puis l'indicateur de surcharge commença à clignoter sur le tableau de bord de la cabine, indiquant un échauffement anormal de la machinerie. Il n'était pas question de s'alléger en abandonnant une partie des vivres et du matériel. Les deux jeunes gens se retrouvèrent donc à pied dès le début de la course. Une tentative de roulement échoua. Obèse, Mikowski peinait loin derrière la barge. Il devint rapidement évident qu'une seule place lui convenait, celle du conducteur. Par bonheur, le trajet fut calme. Ils atteignirent les contreforts du deltoïde sans avoir rencontré un seul mutant. À deux reprises, toutefois, ils longèrent un cimetière de paix suppurante, témoignant de sépultures encore fraîches et de récents combats. Toutes les 18 heures, ils posaient la barge sur le sol, coupaient les turbines et se creusaient une niche dans le monceau de pémican dont ils mâchonnaient quelques débris avant de s'endormir. Les choses se gâtèrent au sommet du muscle. Gott repéra des ombres qui les observaient derrière la broussaille du duvet graisseux. Puis ils butèrent sur un rempart fait de poils épais comme des troncs. L'ouvrage artisanal défendait la vallée plongeant vers le biceps. Ils approchaient sans aucun doute du lieu de la fracture, car un énorme œdème déformait le sol partout aux alentours. À certains endroits, la chair de la bête était si brûlante qu'il devenait impossible d'y poser le pied. Gott et Lisa relevèrent des pointes de température frisant les 120 degrés Celsius. Une brume de chaleur faisait vibrer l'air, et les lignes du relief ondulaient en une boule constante qui finissait par vous jeter le cœur au bord des lèvres. En poussant au maximum la soufflerie de l'aéroglisseur, Mikowski parvint à élever la benne au-dessus de la muraille. Les deux jeunes gens, eux, durent longtemps chercher pour découvrir une faille dans la construction. Coupés de leur bulbe, les poils avaient tendance à se desquamer, fragmentant leur gaine en une série de copeaux acérés qui griffaient affreusement le dos et les épaules dès qu'on commettait l'erreur de les effleurer. De l'autre côté, ils se retrouvèrent nez à nez avec un homme curieusement emmailloté d'une demi-douzaine de sacs de couchage qu'il maintenait entortillés autour de ses membres à l'aide de grossiers croisillons de ficelles. Cette armure grotesque lui donnait l'allure d'un bibendum au front trempé de sueur. À la vue de Lisa, il recula précipitamment, une expression terrifiée sur le visage. Mais c'est Peter, s'étonna Gott qui, à quatre pattes, émergeait de la faille. Qu'est-ce qui lui prend ? Hé, Peter ! Mais l'autre continuait à battre en retraite. Ne m'approchez pas, hurla-t-il soudain. Ne me touchez pas. « Je suis fragile, très fragile. Suivez-moi à distance et ne portez la main sur aucun de ceux que vous rencontrerez. Pas de chicane, pas d'accolade, rien. Aucun contact. Vous vous rappellerez ?» Gott et Lisa l'assurèrent de leur obéissance. Avec d'infinies précautions, Peter les mena au centre d'une petite clairière qu'occupaient une dizaine d'individus. Mikowski les avait devancés. « C'est l'équipe numéro 4 », souffla Gott. « Bon sang, il en manque les deux tiers. » Les sourcils arqués par la surprise, Lisa remarqua que la plupart des survivants étaient, à l'exemple de leur guide, emmitouflés dans des cocons de mousse, de toile ou de rembourrage divers. Quelques femmes se tenaient à l'écart, nues, ficelées entre deux matelas gonflables tels des sandwichs humains. Mikowski se leva, désigna un homme maigre aux cheveux coupés en brosse, allongé sur un aquabed glougloutant. « Frank Cornwell », murmura-t-il en guise de présentation, responsable du secteur 4. Il était en train de m'expliquer leurs problèmes. « Allez-y, Patrick, cette jeune femme représente le ministère. » Cornwell soupira précautionneusement. Lisa nota tout de suite avec stupéfaction que certaines parties de son corps, pourtant écharnées, paraissaient anormalement molles, comme privées d'armature. Si le pied droit révélait dans toute sa maigreur l'architecture compliquée des tarses et métatarses, Le gauche, lui, pendait lamentablement comme une caricature caoutchouteuse appartenant à une poupée gonflable à la valve mal rebouchée. Cornwell surprit le regard de la jeune femme. « Carence de l'ostéoblaste, » dit-il d'une voix sans timbre. « Les cellules osseuses ne se reproduisent plus. Les coulées d'oséine sont de plus en plus minces. Les pores se dilatent à l'extrême. Tibia, radius, rotule, tous finissent par s'effriter. Le sang les dilue, les délite. Comme un morceau de craie trempé dans du vinaigre. L'armature du squelette se défait, tourne en poudre, et le membre se transforme en un sac de muscles inutiles. La mutation commence par les extrémités, puis elle gagne le torse, dissout la cage thoracique. Les poumons ne peuvent plus jouer leur rôle de souffler, c'est l'asphyxie. Regardez ma jambe gauche. Si l'envie vous en prenait, vous pourriez la rouler sur elle-même comme un vulgaire tuyau d'arrosage. C'est la vieille histoire du désossé de l'homme caoutchouc, mais je n'arrive pas à la trouver drôle. Peter n'en est encore qu'au stade de la fragilité. Une pichenette vous vaut une fracture, une chute vous transforme en puzzle. Moi, je m'achemine doucement vers le stade invertébré. D'ici quelque temps, mes mâchoires vont se dissoudre. Privé d'appui, mes muscles faciaux seront désormais incapables de mouvoir ma bouche. Je serai muet. Je pense qu'on pourra me comparer à une flaque vivante, une sorte de paquet d'organes grouillants. Comment est-ce arrivé ? Interrogea Mikowski. L'alimentation ? Oui, et en un temps record. Décalcification, disparition des sels de calcium, classique. Ainsi l'animal est malade, observa Lisa. Il vous a en quelque sorte contaminé. Le membre qui s'est cassé spontanément cette nuit a cédé sous son propre poids. Le bras qui nous porte est en train de perdre lui aussi son armature, de diluer son squelette. Peut-être. Mikowski fronça les sourcils. « On dirait que vous en doutez, Patrick, » nota-t-il d'un ton égal. « Vous avez une autre hypothèse ?» Cornwell déglutit prudemment, comme s'il redoutait de se briser la nuque par ce seul mouvement. « Tout n'est pas si simple, professeur, » chuinta-t-il. « On aurait pu la rendre malade. C'est relativement facile. Il suffisait d'inhiber l'hormone de croissance, de... »« Bon sang, » coupa Mikowski. « Qui aurait intérêt à faire cela ?» Pas mal de gens. Dès le début des mutations, il y a eu une sorte de schisme. Certains, qui s'étaient physiologiquement ou mentalement assimilés à la bête, ont voulu défendre cette dernière, empêcher qu'elle ne devienne la victime d'une colonisation scientifique. D'autres, au contraire, ont pensé que le salut résidait dans la destruction de l'animal. Entre ces deux parties extrémistes, s'est développée la gamme de ceux qui désiraient seulement survivre en conservant leur intégrité corporelle et psychologique. Ceux-là ont commencé à se battre pour la possession des territoires neutres, des zones saines qui, à l'instar du camp de base, dispensaient une nourriture non mutagène. Une quatrième fraction a émis l'idée qu'il était possible d'étendre la superficie des zones consommables en activant le processus de croissance,
en le stimulant artificiellement. Et ils ont entrepris d'agrandir la bête comme on agrandit une maison, en hypertrophiant tel ou tel membre. C'était pour eux le seul moyen d'enrayer les guerres de conquête. Évidemment, les ultras ont mal réagi. Les uns se sont élevés contre des manipulations susceptibles d'engendrer des infirmités irréversibles. Les autres ont refusé le compromis des tièdes et prenez une fois de plus la liquidation pure et simple. Les escarmouches se sont multipliées, les morts aussi. Depuis, chaque clan s'efforce de poursuivre son action, sûr de son bon droit. Les assimilés, autrement dit les mutants, détruisent les non-mutants. Les partisans de l'extension se battent avec leurs envahisseurs ou accélèrent la croissance parcellaire de la bête, provoquant du même coup sa dévitalisation. Les liquidateurs, eux, tentent de saccager l'organisme de l'animal au moyen d'interventions chimiques ou chirurgicales. Ils jouent sur ses nerfs, provoquent des spasmes qui prennent l'allure de véritables tremblements de terre. Il est fort possible qu'ils soient à l'origine de la fracture d'hier soir. Connaissant la carence osseuse de cette zone,
il était facile de prévoir ce qu'engendrerait une crise de spasmophilie. Mikovski s'épongea nerveusement le front. Toute sa calvitie luisait de sueur. « Qui dirige ces actions ? » interrogea-t-il durement. « Les assimilés sont répartis en tribus multiples, non coordonnées. Ils sont sédentaires et ne sortent jamais de la zone qu'ils défendent. La plupart se prennent pour des leucocytes et ils ont fâcheusement tendance à confondre les étrangers avec des bactéries. Les liquidateurs sont dirigés par Izzy Jamine, celle qui a failli obtenir le prix Nobel en 98. Pour les autres, je ne sais pas. »
Où est-elle retranchée ?
Je n'ai aucune information, mais à mon avis, quelque part entre l'hypophyse et la thyroïde. De là, elle peut tirer toutes les ficelles biologiques de l'animal. Oui, ce doit être là, la gorge, la nuque. Les partisans de la croissance doivent lui mener la vie dure. Mikovski se redressa en faisant craquer ses rotules. Cronwell lui jeta un regard d'envie. « Bon Dieu, rageait-il, ce que j'aimerais être rhumatisant arthritique au dernier degré. Au moins je serais sûr d'avoir un squelette. »
« Nous allons vous laisser une grande quantité de nourriture saine, lâcha le professeur. Il est possible que la mutation s'interrompe, voire régresse chez les sujets les moins atteints, mais je ne peux rien vous affirmer. Il s'agit simplement d'une théorie. Je vous souhaite bonne chance. »
Moi aussi. Vous allez entreprendre un sacré voyage, mon vieux. Ils sont tous devenus fous. Les cerveaux les plus brillants de l'université de Santa Catalina. Certains ne méritent même plus le nom d'homme.
Gott et Lisa se dirigèrent vers la benne. Des pelles étaient fixées sur les flancs de la barge, ils s'en saisirent.
« Tu vois, exulta sombrement le garçon, je n'avais rien exagéré. C'est encore pire que je l'imaginais.
Izzy Jamine.
Elle est aussi forte que Mikovski et moins hésitante. Si elle a décidé de détruire l'animal, elle y parviendra, tu peux en être sûr. Cette planète de chair va se mettre à pourrir sous nos pieds. Nous allons nous balader à la surface d'un cadavre gros comme une lune. Le rêve. »
La jeune femme haussa les épaules et commença à pelleter. Elle n'était guère plus rassurée que son compagnon, mais elle préférait ne pas laisser gambader son imagination. Elle n'interrompit sa besogne que lorsque le sang lui bourdonna aux tempes. Au bas de la barge, les hommes bibendum avaient fait cercle, l'œil avide. Une nourriture saine et des piqûres de calcium concentrées. Ça peut marcher, rêva Peter.
Oui, oui, sûrement, balbutia en écho le cœur des femmes sandwich ligotées dans leur matelas gonflable.
Tu parles, siffla Gott entre ses dents. Lisa dut lutter pour ne pas le gifler. Mikovski prenait congé, elle sauta à terre pour se joindre à lui.
C'est dur, vous savez, lui murmura Peter. Pour enterrer les copains, on les plie comme des vêtements qu'on se prépare à mettre dans une valise.
Enfin, moi, je n'ai jamais su faire une valise, c'était ma femme qui... Alors, quand c'est mon tour, je les roule comme un tapis. Mais c'est dur.
La cérémonie des adieux achevée, ils battirent en retraite et repassèrent la muraille de poils. Mathias Mikovski se tenait raide au-dessus du volant, les sourcils bas, les paupières plissées. Lisa pressa le pas pour se maintenir à la hauteur de la cabine.
« Vous êtes inquiet ? » cria-t-elle en essayant de dominer le bruit de la soufflerie.
Le gros homme eut un rictus évocateur.
« Je ne m'étonne plus des affections de la bête, » grogna-t-il dans sa moustache. « En dilatant arbitrairement telle ou telle zone, ils vont la rendre boiteuse, croîtreuse et bossue. Le gigantisme artificiel de certaines parties entraînera immanquablement une dévitalisation des autres.
Si des secteurs entiers montrent l'aspect d'un organisme atteint de sénilité précoce, c'est parce que le flot des hormones d'entretien et de croissance a été dévié de son cours. Pour gagner de la surface, il n'y a pas 36 solutions. Il faut grossir et allonger les membres. Ils sont en train de nous fabriquer un monstre.
Quel est votre plan ?
Guérir le maximum de mutants, leur donner les moyens de rallier le camp de base.
Et raisonner Izzy Jamine, c'est la plus dangereuse.
Si elle parvient à tuer l'animal, c'est notre mort à tous. L'atmosphère va disparaître du jour au lendemain, comme la pesanteur artificielle. Nous serons asphyxiés, gelés et aspirés par le vide du cosmos avant qu'une navette de secours n'ait pu nous embarquer.
Vous n'avez aucune possibilité d'émettre un SOS ?
Non, aucune. Je suis désolée, nous sommes dans le même bain. Les ondes ne traversent pas la couche oxygénée émise par l'épiderme. Il n'y a aucun moyen de jeter une bouteille à la mer.
Alors, il faut neutraliser EasyJamine au plus vite. Vous témoignerez que j'ai dû prendre cette décision pour assurer la survie de mon équipe et celle du sujet d'étude. La haute autorité ne pourra pas m'en tenir rigueur. Cette profession de foi proclamée, il parut sombrer dans une méditation morose dont Lisa n'eut pas le courage de le tirer. Comme elle revenait en arrière, elle entendit God ricaner. « La survie de l'équipe, grasseya le garçon. Tu parles, elle a bon dos. » Pour lui, c'est l'occasion rêvée d'en finir avec une rivale scientifique. EasyJamine lui fait de l'ombre depuis un bon moment. Il a même été question d'elle pour la direction de cette mission. Nous allons faire les frais d'une querelle de jalousie entre cerveaux. Au beau milieu de la toison pectorale, ils durent brutalement dévier de leur course pour fuir une horde composée d'individus atteints de gigantisme dont la plupart ne paraissaient pas animés des meilleures intentions. L'acromégalie leur avait à tel point déformé les os de la face que ni God ni Mikovski ne furent capables de reconnaître en eux d'anciens collègues de laboratoire. Leur exode avait eu pour origine une subite poussée fébrile du territoire habituel de résidence, car nombre des maraudeurs présentaient de graves brûlures aux jambes et aux pieds. Ces plaies boursouflées et suppurantes, qui les ralentissaient considérablement dans leur avance, les empêchèrent du reste de se lancer à la poursuite de la barge. Mikovski tenta d'établir le dialogue, mais faillit se faire lyncher à coups de débris osseux de provenance indiscutablement humaine. La benne rebroussa donc chemin jusqu'à la limite des muscles surcostaux. Là, ils trouvèrent deux cadavres, dont le centre mésencéphalique de thermorégulation était devenu fou sous l'influence d'une quelconque excitation bactérienne ou hormonale. Le premier avait subi de si violents accès de fièvre qu'il avait fini par prendre feu, se réduisant présentement à une momie de goudron racorni, une poupée tragique et carbonisée aux traits inidentifiables. Le second avait connu une telle chute de température qu'il en restait encore à demi congelé. Sa peau bleuâtre avait la dureté de la pierre et des cristaux de glace obturaient ses narines. Mikovski choisit de ne pas s'arrêter, contourna la pointe du sternum et se lança à l'assaut du grand pectoral gauche. Gott et Lisa commençaient à ressentir les symptômes d'un épuisement caractérisé. Ils exigèrent une journée de repos complet, au grand dam du professeur qui resta derrière son volant à ronger son frein. À peine couchée, Lisa s'endormit. Elle n'ouvrit l'œil que 8 heures plus tard. Ses jambes, ses fesses, ses reins lui faisaient atrocement mal et elle se massa longuement sans obtenir de soulagement notable. God lui proposa une piqûre dopante qu'elle n'eut pas le courage de refuser. Il officia avec une grande dextérité. Au bout de quelques minutes, Lisa sentit un immense bien-être irradier dans ses cuisses et ses mollets. Notant son soulagement, le garçon lui claqua la fesse avec un rire de soigneur satisfait. « Si tu es en forme, prends tes jumelles, commanda-t-il. On va se hisser là-haut et tenter un repérage. » Pas la peine de reprendre la route si c'est pour aller au-devant d'une tribu en maraude. On n'aura pas toujours la chance de tomber sur des éclopés. » Il désignait le tronc d'un poêle dont l'extrémité pendait mollement à 2 mètres du sol. La jeune femme haussa les épaules. « Comment veux-tu grimper là-dessus ? C'est comme si tu me proposais d'escalader un arbuste. Il va se plier sous notre poids, à moins que... » Elle venait de comprendre. God sourit. À moins qu'on excite le muscle horripilateur, conclut le garçon, celui qui provoque l'érection du poil en cas de peur ou de froid intense. Il fouilla dans sa sacoche, en tira une perceuse médicale et entreprit de forer un trou de la grosseur du petit doigt à la base du tronc. Une odeur de corne brûlée emplit l'air. Sa besogne achevée, il injecta dans le bulbe le contenu de 2 ampoules grand format. De quoi provoquer un tétanos parfait d'une 15 minutes, goya-t-il. Admirez le travail. L'effet de la solution ne tarda pas à se faire sentir. Une auréole de chair se fripa sur le sol, traçant un cercle grumeleux autour du poêle qui se redressa en faisant gémir l'écorce de sa gaine. Isa battit des mains. Tirant les jumelles de sa besace, elle se lança à l'assaut de la colonne squameuse étonnamment rigide. Très vite, elle fut à mi-course. Lorsqu'elle sentit le tronc osciller sous son poids, elle cessa de grimper et porta les oculaires à ses yeux. Elle dominait la toison de 3 bons mètres et découvrait ainsi toute l'étendue de la forêt pectorale. Manœuvrant la molette de mise au point, elle chercha à localiser le cou et la tête, mais la brume chaude enveloppait ces régions d'un halo trouble, compact, que le pouvoir de séparation des lentilles n'arrivait pas à percer. Elle reporta son attention sur les environs immédiats. À 10 kilomètres en amont, pointait le cône déchiqueté d'un cratère débordant de lave. Une 30aine de personnes fuyaient les coulées meurtrières dans le désordre le plus complet, se piétinant les unes les autres au milieu de la broussaille grasse d'une savane de duvet. Lisa écarquilla les yeux, stupéfaite, persuadée d'être victime d'une hallucination. Elle n'eut pas le temps d'approfondir son examen. Le tronc se mit à trembler entre ses cuisses bandées, annonçant son fléchissement imminent. 10 mètres plus bas, Gold gesticulait en la suppliant de revenir. Elle n'avait pas conscience d'être montée si haut. S'écorchant les mains et les genoux aux aspérités de la gaine, elle amorça sa descente. L'image du volcan dansait sous ses paupières, impossible, folle. Le poêle s'incurvait de plus en plus, retrouvant sa position première de roseau fléchi. Elle dut accélérer le mouvement. Ses doigts saignaient. Elle manqua une prise, glissa sur 1 mètre et se lacéra horriblement la peau du ventre. Les dents serrées, elle essaya de ne pas s'affoler, de garder le contrôle de ses gestes. Elle parvint à sauter au moment même où la tige se couchait sous son poids. Le contact avec le sol ne fut pas trop rude, la chair élastique de l'animal ayant absorbé la majeure partie du choc. Gott l'aida à se relever. « Ça va ? La contraction a cessé plus tôt que prévu. J'ai bien cru que tu allais faire le plongeon. » Elle lui raconta ce qu'elle avait vu. Le volcan en éruption, les coulées vitreuses courant dans la peau, y creusant plaies et crevasses. La fuite éperdue des sinistrés se débattant dans la toile d'araignée des broussailles crépues. Gott l'écoutait, incrédule, les sourcils froncés. Il finit par perdre patience, la saisit aux épaules et la secoua avec rudesse. « Mais tu dis n'importe quoi, vociféra-t-il. Il ne peut pas y avoir de cratère, nous sommes sur un animal. Tu ne l'as pas encore compris ?» Il lui faisait mal, elle se dégagea d'une bourrade. L'éclat tira Mikoski de sa bouderie. Il se précipita, déséquilibré par sa panse énorme, réclama des explications. Lisa dut relater une deuxième fois sa vision. Le savant parut lui aussi totalement décontenancé. La jeune femme s'emporta. « D'après ce que j'ai pu voir, les fuyards venaient dans notre direction. Nous devrions nous trouver face à eux d'ici 1 heure. On verra bien alors si j'ai rêvé. » L'idée de cette confrontation fit grimacer Gott, qui se mit à scruter fiévreusement la jungle de poils les entourant. Mikoski haussa les épaules avec fatalisme. « On ne peut pas perpétuellement fuir le contact, bougonna-t-il dans sa moustache, sinon nous n'avancerons jamais. Vous montrez sur la benne. Depuis que nous avons approvisionné Cromwell, la charge de nourriture s'est allégée. Je pense que je pourrais faire grimper la barge de 2 ou 3 mètres en cas d'agression. Vous vous aplatirez, n'offrez aucune prise aux armes de G. Au besoin, jetez du lest. Des appareils les moins importants, de préférence. » Ils regagnèrent le véhicule dont ils escaladèrent les flancs boulonnés avec une hâte fébrile. Mikoski réintégra le poste de commande, verrouilla portière et pare-brise. Dans un vombrissement de ventilateurs déchaînés, la lourde machine quitta le sol, tandis que sa soufflerie creusait une raie dans la prairie de duvet. Gott et Lisa s'étaient couchés sur le tas de viande séchée, le nez à la hauteur du rebord métallique de la benne, scrutant le paysage comme 2 gosses curieux tapis au faîte d'un quelconque mur d'enceinte. Mikoski traçait son chemin sans précaution inutile. Le vacarme de la turbine dénonçait leur avance à 3 kilomètres à la ronde, rendant du même coup superflu toute tentative d'approche silencieuse. À l'instant où ils dépassaient la tache noirâtre d'un névus, les premiers fuyards jaillirent d'entre les bambous. Ils étaient tous nus, hagards, couverts de sueur.
Lisa dénombra rapidement une dizaine d'hommes et autant de femmes. Un sexagénaire squelettique paraissait les commander. Sa nudité blême contrastait étrangement avec les grosses lunettes à monture d'écailles chevauchant son nez. De rares cheveux roux adhéraient encore à son crâne brillant. Il leva les bras d'un geste autoritaire, provoquant l'arrêt immédiat de ceux qui le suivaient. C'est Sven Arunson sous flagotte, un Suédois. Il dirigeait le quatrième groupe d'exploration. Lisa détaillait minutieusement le corps des sinistrés. Malgré tous ses efforts, elle ne put y découvrir le moindre signe de mutation. La petite troupe haletante semblait jouir de toute son intégrité physique. Leur visage seul témoignait d'une hébétude prononcée, qu'on pouvait mettre toutefois sur le compte du choc ressenti lors de la catastrophe. Mikowski interpella le grand vieillard en agitant un bras hors de la cabine. « Sven, cria-t-il, c'est moi, Mathias, tu me reconnais ?» Le Suédois recula précipitamment, les pupilles dilatées par la haine et l'exaltation. Ses bras décharnés, toujours brandis au-dessus de sa tête, tremblaient comme des sarments. Il se tourna vers ses compagnons, poussa une longue plainte animale et sauta sur le piédestal improvisé d'une verrue comme s'il montait en chair. « Frère Leucocyte !» l'entendit hurler Lisa. « Le mal est à nouveau là. L'invasion bactérienne masse ses troupes à nos portes. Notre pays !» Cet organisme vivant dont nous sommes les soldats microscopiques attend notre sacrifice. Digérons l'envahisseur pathogène. Ceux d'entre nous qui mourront au combat formeront le plus glorieux des martyrs obscurs. » God se cacha le visage dans les mains. « Non, c'est pas vrai, » l'entendit gémir la jeune femme. « Les voilà qui se prennent pour des globules blancs. » Elle ne put retenir un frémissement. « Mais alors, balbutia-t-elle, « ils vont tenter de nous dévorer ?» Elle se redressa sur un genou. En bas, la troupe exaltée se déployait avec l'intention évidente de se lancer à l'assaut de la barge. Hommes et femmes ouvraient et refermaient la bouche en cadence, retroussaient les lèvres pour découvrir leurs dents. Leurs mâchoires claquaient avec violence dans un horrible bruit d'ivoire fêlé. Les premiers se jetèrent sur le boudin de caoutchouc, entourant l'appareil et le lacérèrent à coups d'ongles. Sven Arudson surveillait la Lali en poussant des modulations stridentes proprement insupportables. Lisa se sentait incapable du moindre mouvement. La vue de ces scientifiques bardés de diplômes montant à l'attaque, telle une horde de loups affamés, allumait dans son entendement des étincelles de folie. « Tuez, tuez !» vociférait le Suédois. « Phagocytez l'ennemi microbien. Vous êtes les purificateurs, ceux qui font battre en retraite la maladie. Tuez !» Mikowski se secoua. S'arrachant à l'hypnose de la surprise, il enfonça les manettes du tableau de bord, poussant la soufflerie à fond. Le véhicule mit près d'une minute à obéir. Quand le matelas d'air pulsé le souleva à 3 mètres au-dessus du sol, 5 ou 6 forcenés restèrent agrippés à la benne. « Ne craignez pas la mort !» s'égosillait Arudson. « Le pu est la seule fin souhaitable pour un globule blanc, la seule justification, la seule preuve de sa fin glorieuse au combat. Tuez !» Le pu. Lisa retint un haut le cœur. Après avoir été des sommités du monde scientifique, après avoir brigué les honneurs, la gloire des récompenses internationales, il n'aspirait plus qu'à la sanie. Qu'à ce suintement nauséabond, qui témoigne du combat de l'organisme contre un agent infectieux, qu'à cet écoulement putride où se mêlent indistinctement bactéries et leucocytes baignant dans le magma déliquescent des cellules nécrosées. Une rangée de doigts apparut sur le pourtour de la benne, suivie de près par plusieurs têtes grimaçantes. Le claquement des mâchoires était insupportable. God roula sur le côté, en voyant sans la moindre hésitation son pied droit dans le visage d'un quinquagénaire barbu. L'autre encaissa le coup sans broncher, cracha des éclats d'émail et tenta de se hisser sur le rebord métallique. Lisa sentit qu'on lui saisissait les chevilles et qu'on la tirait vers le vide. Elle voulut se retourner, tomba sur le ventre. Aussitôt, quelqu'un lui sauta sur le dos et lui enfouit la tête dans le monceau de viande séchée. Elle suffoqua. Les cris de Sven ne lui parvenaient plus qu'assourdis. Elle rua des deux jambes, tenta de désarçonner son adversaire, mais l'inconnu tenait bon.
Elle percevait nettement les halètements de l'homme contre ses omoplates. Elle sentait la bave ruisseler dans sa nuque. Elle se débattit en vain. Ses soubresauts ne parvinrent qu'à provoquer l'érection du combattant leucocyte, dont le sexe s'érigea contre les fesses de la jeune femme. Alors qu'elle s'attendait à être violée, il la mordit cruellement à l'épaule. Elle hurla. Les dents creusaient sa chair comme les crocs d'un animal qui cherche à prélever un morceau de viande pour le mâcher et le déglutir. Cette fois, la douleur lui donna la force de réagir. D'un formidable coup de rein, elle fit basculer l'assaillant et le frappa des deux poings à la carotide. Une pensée atroce et grotesque fusa dans son esprit. « Je suis en train de tuer un sauvage, 6 fois agrégé, 3 fois docteur, médaillé de 4 ou 5 universités, et qui se prend pour un globule blanc. » Gott s'était emparé d'une pelle et cognait sans discernement, aplatissant les phalanges, fendant les cuirs chevelus, balafrant les visages. Les attaquants lâchèrent prise un à un et basculèrent dans le vide. Lisa repoussa son agresseur, qui ne donnait plus signe de vie, et vola au secours de Mikowski.
Une fille aux yeux fous avait sauté sur le marchepied de la cabine.
Usant d'un tibia humain comme d'un marteau, elle essayait de briser la vitre latérale pour s'introduire dans le poste de commande. La custode étoilée semblait proche de voler en éclats, et le professeur se cramponnait au volant, le visage luisant de sueur. Lisa bondit sur le capot, faillit perdre l'équilibre et se rattrapa de justesse à l'un des phares. Le casse-tête improvisé lui meurtrit le front et la pommette. Elle serra les dents, se jeta à plat ventre sur le pare-brise et frappa la démente d'une manchette entre les sourcils. Le coup, mal appliqué, n'avait rien de décisif. Il suffit pourtant à déstabiliser la furie qui battit l'air avec son os avant de dégringoler du marchepied en poussant un cri d'effroi. Mikowski enfonça la pédale d'accélération, éveillant les protestations de la turbine. Une épouvantable odeur de caoutchouc brûlé se répandit dans l'atmosphère déjà lourde, mais le véhicule fit un bond d'une dizaine de mètres, plongeant comme un coin dans la muraille élastique des poils dressés. Lisa escalada le toit pour regagner la benne. « On les a semés, exulta Gott. Bon Dieu, tu parles d'un abordage !» La jeune femme se laissa tomber sur les genoux, palpa son épaule douloureuse et ramena sa paume engluée de sang. Elle avait été mordue si profondément qu'il lui faudrait probablement subir une 20aine de points de suture. Elle jura. À 100 mètres derrière la barge, les combattants globulaires semblaient avoir renoncé à la poursuite. La voix de Sven Arunson se fondit progressivement en un borborygme inintelligible. « Il voulait nous dévorer, commenta Lisa, nous phagocyter au nom du cannibalisme biologique. Ils ont perdu toute individualité, toute personnalité. C'est un cas de symbiose psychologique absolument effrayant. C'est ce qui nous arrivera avant peu si nous persistons dans ce voyage ridicule, maugréa le garçon. Tu ferais mieux d'user de ton influence pour convaincre le vieux de faire demi-tour. La prochaine fois, nous aurons peut-être moins de chance. » Lisa haussa les épaules et grimaça de douleur. Un liquide chaud et gluant coulait le long de son échine. « Pas par là !» hurla soudain une voix inconnue tout près d'elle. « Pas par là, vous revenez vers le volcan !» Le cœur battant la chamade, elle s'aperçut que son assaillant, celui qu'elle était persuadée d'avoir tué, rampait présentement à 4 pattes dans le tas de viande séchée. Sa carotide s'ornait d'un énorme hématome et il paraissait avoir le plus grand mal à garder les yeux ouverts. Il cracha une bave sanguinolente, se redressa en battant des bras. « Le volcan, répéta-t-il, c'est l'œuvre des Ijamines. Elle l'a fait naître sur notre terre pour nous en chasser. Un trou minuscule d'abord, une pièce de 10 cents, et puis très vite une soucoupe, une assiette, une cuvette. Notre territoire s'est soulevé tout entier pour devenir cratère. Il faut rebrousser chemin. Là-bas, c'est la mort. » Il se tenait en équilibre sur le rebord de la benne, oscillant dangereusement au-dessus du vide. Lisa tendit la main pour le retenir, mais il poussa un hurlement et sauta délibérément de la barge. Les hautes herbes l'engloutirent aussitôt. « Cet idiot, vitupéra Gott. On ne fait pas naître un volcan sur un organisme vivant. » La jeune femme jugea inutile d'entamer une nouvelle polémique. « Regarde, se contenta-t-elle de lâcher en désignant le sol. »
Des coulées vitreuses avaient rongé la peau.
entamant la couche cornée et la base de nombreux poils qui s'étaient couchés comme des arbres abattus. À certains endroits, des rigoles avaient fini par ouvrir des ravines, découvrant les vaisseaux sanguins superficiels dont les canalisations avaient cédé. Le raz-de-marée corrosif dévorait la toison du pelage, y ouvrant une tonsure douloureuse et saccagée où ne surnageaient plus que des rares îlots d'épiderme encore intacts. Au milieu de cet espace dévasté, béait un cratère au bord déchiqueté, blanchâtre, un volcan dont le cône d'éjection s'élevait à peu près d'une dizaine de mètres. Gott ouvrit la bouche sans pouvoir prononcer une parole. Lisa sentit son front se couvrir de sueur. À présent, l'aéroglisseur s'engageait au-dessus des coulées. Il suffisait d'un rien, d'un ennui technique, d'une panne subite de la soufflerie malmenée pour que le matelas d'air comprimé s'évanouisse, les jetant sur le sol au milieu des nappes acides. « Pas un volcan » murmura-t-elle les lèvres sèches. « Seulement un ulcère. »« Un ulcère géant. Je n'avais pas rêvé. Gott, qu'est-ce que tu en penses ?» Le garçon toussa visiblement mal à l'aise. Mikovski s'est planté, articula-t-il enfin. Nous sommes très en dessous des surcostaux, probablement dans la paroi abdominale, à la base du poumon gauche. C'est plus qu'un ulcère, sans doute une perforation de l'un des trois estomacs de l'animal. Une perforation à ciel ouvert. Atroce. La bête peut en mourir ? Non, je ne crois pas. S'affaiblir, oui. Et maigrir. Mais les autres poches stomacales prendront le relais à son réveil. Pour l'instant, elle hiberne, s'alimentant sur les seules réserves lipidiques de la couche de graisse. Évidemment, il y a toujours les risques d'hémorragie. Tu crois à une manœuvre d'isijamine ? C'est possible. On peut provoquer une perforation par de multiples moyens, le poison, un produit toxique, Lisa fit la moue. Il en aurait fallu trois camions-citernes. À l'échelle de la bête, on ne raisonne plus en termes de cuillère à soupe. Vous n'avez jamais débarqué une telle quantité de substances toxiques. Le jeune homme se renfrogna. Mikovski hésitait sur la conduite à tenir, et la barge louvoyait entre les touffes de poils encore intactes dans le frombissement de la turbine surchauffée. Si la soufflerie lâche, on plonge, constata Gott d'une voix blanche. Ces coulées corrosives qui ressemblent à de la lave, c'est du suc gastrique, de l'acide chlorhydrique et de la pepsine super concentrée. La barge sera entièrement digérée en moins d'un quart d'heure. La taille de l'animal implique que toutes ses sécrétions fonctionnent à la puissance 1000. En fait, tu avais raison. C'est un volcan de chair et de sang. Lisa hasarda son visage au-dessus de la rambarde. En bas, quelques glandes sudoripares tentaient de lutter contre le sinistre en déversant des centaines de litres de sueur. Mais le flot salé ne parvenait plus à délayer les redoutables mucosités qui rayonnaient autour du cratère comme les fils d'une toile d'araignée. Les vapeurs émises par les sucs digestifs irritaient les yeux et la gorge. Gott se mit à tousser de façon déchirante. Lisa ne tarda pas à l'imiter. À travers les larmes qui lui emplissaient les yeux, il lui sembla apercevoir une forme humaine couchée sur l'un des îlots d'épiderme encerclés par la lave. « Là-bas » cria-t-elle à son compagnon, « il y a quelqu'un. » Elle frappa vigoureusement du plat de la main sur le toit de la cabine pour avertir Mikovski. Celui-ci mit un moment pour parvenir à faire glisser la vitre tordue. Conduite d'une seule main, la barge dériva dangereusement. La turbine gémissait sur une note de plus en plus aiguë, comme un aspirateur au bord de l'étouffement. « À gauche, » répéta la jeune femme, « sur l'île triangulaire. » On dirait un corps étendu. Un traînard, sans doute, s'impatienta Gott. Les émanations de chlore l'auront asphyxié. On ne peut rien pour lui. Il ne faut pas s'attarder ici. L'hélice de la soufflerie va lâcher. Je le vois, cria Mikovski. Essayez de l'attraper au lasso. Faites vite. Le voyant de la surchauffe vient de s'allumer. Lisa fouilla fébrilement dans le morceau de nourriture à la recherche d'un filin. Dès qu'elle eut mis la main sur la corde, elle improvisa un nœud coulant. Mikovski poussa le véhicule en direction du lambeau de chair attaqué de toutes parts. La turbine eut un raté, toussa, tandis que la masse imposante de l'appareil perdait un mètre d'altitude. Lisa haletait, une boule dans la gorge, la pointe des seins hérissée par l'angoisse. Le corps était celui d'une femme, une jeune fille brune aux cheveux taillés en brosse et à la peau foncée de métisse. Nue, elle reposait sur le flanc, les poignets liés dans le dos, les chevilles maintenues sur les fesses par une corde entourant sa taille. On l'avait délibérément abandonnée, sacrifiée, comme si Sleif Harutsan espérait, par cette offrande, apaiser la colère du volcan. Lisa comprit que le lasso ne servirait à rien. Il lui fallait sauter sur l'île, libérer la prisonnière et remonter avec elle. La barge tiendrait-elle jusque-là ? « Passez-moi un scalpel, » ordonna-t-elle à Gott. Il s'exécuta de mauvaise grâce. La lame entre les dents, la jeune femme enjamba le plat-bord et se laissa couler le long du flanc de la benne. Les émanations âcres assaillirent ses bronches et sa vue se brouilla. S'écorchant au boulon, elle descendit jusqu'au bourrelet de caoutchouc saignant l'appareil, se ramassa pour sauter. Elle était à 3 mètres du sol. Si la peau élastique la faisait rebondir, elle risquait fort de basculer au beau milieu des coulées. Dans la cabine, Mikovski s'agitait, le visage en sueur. En roulant des yeux, il lui désigna le tableau de commande. Le voyant de surchauffe allumait un reflet clignotant sur son front dégarni. Il devenait vital de ne plus s'attarder. Lisa se ramassa, bondit. Il lui sembla qu'elle tombait pendant un temps incroyablement long. Quand ses pieds touchèrent le sol, elle sentit la peau s'enfoncer à la manière d'une trampoline ou d'un matelas de plage. Puis l'épiderme comprimé se dilata à nouveau, la rejetant en l'air. Morte de peur, elle battit l'air des bras et des jambes sans parvenir à contrôler sa trajectoire. Elle heurta une nouvelle fois la terre, rebondit et glissa vers le flot acide qui coulait à l'assaut du monticule avec un grésillement de mauvais augure. La superficie de l'île diminuait de minute en minute. Lisa planta ses ongles dans la chair grasse, y ouvrant des plaies que lui aurait enviées une bête féroce. Puis elle mordit carrément l'épiderme, s'y ancrant comme un parasite avide de sang. Cette fois, la glissade mortelle s'interrompit brutalement et le choc de l'arrêt faillit lui décrocher la mâchoire. Avec d'infinies précautions, elle entreprit de remonter la pente que la sueur et le sébum achevaient de transformer en patinoire. Elle haletait, suivie de près par le clapotis des humeurs, dissociant protéines et lipides à une vitesse phénoménale. Les genoux en coton, elle se laissa tomber à côté de la prisonnière. Elle avait perdu le scalpel, probablement au cours du premier rebond, et ne disposait plus que de ses doigts ou de ses dents pour venir à bout des liens. « Tu n'y arriveras pas !» cria la métisse en devinant son intention. « C'est du nylon. » Il n'y avait plus qu'une solution. Demander qu'on lui envoie la corde, faire hisser l'inconnu par Gott et attendre qu'on lui jette le filin pour grimper à son tour. L'île surnagerait-elle encore assez longtemps pour permettre une manœuvre aussi lente ? Elle se redressa, gesticula à l'intention du jeune homme qu'elle apercevait penché au-dessus du plat-bord. Le rouleau de câble lui arriva en plein visage et elle oscilla une seconde, étourdie par le choc. Des papillons noirs sur la rétine, elle encorda la fille aux cheveux crépus, donna une traction signale et soutint le corps brun doré jusqu'au moment où le mouvement de halage inégal de Gott lui fit quitter le sol. Toujours entravée, les poignets et les chevilles retournés dans le dos, la jeune noire s'éleva dans les airs, heurta le bourrelet de caoutchouc de la barge et se râpa les omoplates sur les boulons quadrillant la benne. Lisa s'efforça de discipliner sa respiration. Autour d'elle, le liquide ulcérant grignotait la cloque de chair boursouflée, réduisant son espace vital de seconde en seconde. La composition de la substance vitreuse défila dans son esprit. Acide chlorhydrique, pepsine. Elle commencerait par être affreusement brûlée sur tout le corps, sa peau se rétracterait comme sous un jet de vitriol, ses yeux sécheraient au fond de leurs orbites. Elle ne serait plus qu'un fantôme écorché vif, que la souffrance ferait courir au hasard dans un geyser d'éclaboussures acides. Là-haut, Gott peinait, les muscles bandés à la limite du claquage. Avec d'énormes difficultés, il parvint à faire basculer la prisonnière dans la benne. Une longue minute s'écoula encore avant que la corde ne siffle dans le vide. Lisa se précipita, mais à l'instant même où ses doigts allaient se refermer sur le filin, la barge fut une embardée et dériva d'une dizaine de mètres. Mikovski se débattait dans la cabine de pilotage, le visage rutilant du clignotement des voyants d'alerte. La sirène de surcharge émit un couinement strident et le véhicule perdit encore 1 mètre d'altitude. À présent, il rasait les coulées dont les plus épaisses projetaient des gouttes grésillantes sur la jupe de caoutchouc. Lisa trépignait sur place sans même s'en rendre compte. La peur avait cédé le pas à une sorte d'incrédulité attirée, tandis qu'une voix intérieure répétait quelque part sous son front « On ne peut pas mourir de cette façon, ce n'est pas possible. Un être humain n'a pas le droit de connaître une telle fin. » Une contraction spasmodique courut sur la plaine ravagée, soulevant une houle de lave qui ne tarda pas à former un rouleau écumant. Cette fois, elle comprit que le tertre allait être submergé. Mikoski manœuvrait désespérément pour se rapprocher de l'île, et la barge oscillait à 3 mètres de la jeune femme. Lisa ne pouvait plus attendre. Joignant les chevilles, elle commença à sauter sur place, usant de l'élasticité de la chair grasse comme d'un tremplin. C'était une folie, mais elle ne voyait pas d'autre moyen de franchir le fossé la séparant du véhicule. La corde de gote ne servait plus à rien, puisque la machine se trouvait presque au niveau des vagues, c'est-à-dire légèrement en dessous de la jeune femme, mais séparée d'elle par une coulée de liquide ulcérant large de 5 ou 6 mètres. Lisa continuait sa danse grotesque, gagnant de la hauteur à chaque rebond. Lorsqu'elle fut à 1 mètre du sol, elle se jeta en avant, les bras tendus en diagonale. Une fraction de seconde, elle entrevit la figure blême de Gode, ses mains ouvertes, mais elle manqua la prise et se raccrocha au plat-bord tandis que son ventre et ses genoux heurtaient violemment le flanc de la benne. La tête lui tourna. Le métal fuyait sous ses doigts huileux. Elle eut l'impression d'être suspendue à la gouttière d'un toit 30 étages au-dessus du sol. Gott la saisit aux aisselles et la hissa en 2 tractions. Elle bascula le nez dans la viande poudreuse. « Je l'ai !» hurla le jeune homme à l'intention de Mikovski. « Mettez les gaz, je l'ai récupéré. » Une secousse ébranla la barge qui fila sur bâbord dans une épouvantable odeur d'huile brûlée. Lisa roula sur le flanc. Dans le mouvement, sa hanche meurtrie toucha l'épaule de la métisse toujours ligotée. Elle nota que le nylon avait profondément entaillé la peau brune, y ouvrant des sillons sanglants. « Merci, » murmura l'inconnu d'une voix rauque. « Je m'appelle Saba Ermal, je suis biologiste. » Et je fais partie du groupe d'Isijamine. » Lisa sursauta. Elle fit signe au garçon de lui tendre un autre scalpel et s'absorba dans l'examen des différents nœuds immobilisant les membres de la prisonnière. « Vous êtes une liquidatrice » observa-t-elle sur le ton de la conversation mondaine. « Que faisiez-vous chez Hudson et ses globules blancs ?»« C'est vous qui avez fait naître cette saloperie, » ragea Gott en désignant l'ulcère. « Compliment. » Vous êtes vraiment tordu. Je ne m'étonne pas que les autres aient eu envie de vous faire bouffer par votre œuvre. » Saba releva la tête, les sourcils raidis, les narines dilatées par la colère. « Nous ne sommes pour rien dans cette maladie. Bien au contraire, nous l'avions détectée dès le début. Isijamine m'a dépêché auprès d'Arunson pour l'avertir du danger encouru et le supplier d'évacuer les lieux. Ces fous m'ont accueilli comme... une bactérie. Ils m'ont rendu responsable de l'ulcération. La moitié de l'équipe voulait me dévorer sur l'heure, l'autre me jeter dans le volcan pour apaiser sa rage. Je n'ai pas pu leur faire entendre raison. Ils sont restés jusqu'à la dernière minute. » Gott renifla ostensiblement pour marquer sa suspicion et fourragea dans la course à pharmacie. La barge filait à nouveau entre les herbes à 50 centimètres du sol en territoire sain. Lisa poussa un soupir de soulagement. Le garçon s'attaqua à son épaule, suturant les plaies sans douceur. Elle dut se mordre les lèvres pour ne pas crier. Mikovski posa enfin le véhicule sur le sol, coupa le contact et s'extirpa de la cabine. Il y ruisselait de sueur de la tête aux pieds. Et, ainsi nu, la panse en avant, seulement vêtue de son énorme moustache, il avait l'air d'un buveur de bière émergeant de la vapeur d'un sauna. « Nous camperons ici, » annonça-t-il en prenant place sur le toit du poste de commande. « L'appareil est plutôt mal en point. Il faudra procéder à une révision. Tout le monde est entier ?» On acquiesça. Saba se présenta, creusant un pli de mécontentement sur le front du savant, que la vue d'une disciple d'Isijamine ne paraissait pas autrement comblée de joie. Pendant qu'elle exposait une nouvelle fois ses arguments, Lisa lui banda les poignets et les chevilles à l'aide de pansements cicatrisants. « On m'a répété partout qu'Isijamine voulait tuer l'animal, » grogna Miskovski. « Je vois bien là une manifestation supplémentaire de son comportement aventuriste. Tuer la bête, c'est nous tuer tous par la même occasion. Je me demande même si cette volonté destructrice n'est pas, sous une autre forme, aussi pathologique que les tentatives d'assimilation de ce pauvre Arusson. Votre rivale, malade, folle, cela vous arrangerait, n'est-ce pas ? » rugit Saba en se dressant sur les genoux. « Vous l'avez toujours détesté, envié. C'est vous qui êtes fou. » Mikovski leva la main, coupant court à la diatribe, et ramassa un morceau de viande qu'il s'appliqua à mâcher. Gott et Lisa l'imitèrent. Seul Saba bouda la nourriture et s'enferma dans un mutisme hostile aux allures de déclaration de guerre. Lorsque les deux hommes se furent endormis, Lisa se laissa couler sur le sol et s'isola dans un bousquet de poils pour satisfaire à ses besoins naturels. Tout son corps la faisait souffrir, la morsure entamant son épaule, mais aussi les hématomes marquant ses genoux et les estafilades zébrant son ventre. Elle ne pouvait plus amorcer un mouvement sans retenir une plainte. Alors qu'elle revenait vers le véhicule en s'appuyant au tronc d'un poêle, Saba surgit d'un buisson et s'efforça de l'aider en lui prenant le bras. « Mikovski se trompe », chuchota-t-elle avec fièvre à l'oreille de Lisa. « Isijamine n'est pas folle, en tout cas pas plus folle que ceux qui acceptent de subir la loi de la bête, de se confondre avec elle en une symbiose dégradante. J'aime mieux mourir dans ma peau de femme que vivre dans celle d'un globule blanc comme Arusson. » Izzy refuse la dégradation, l'assimilation progressive. Si nous composons avec l'animal, nous régresserons peu à peu. D'individus responsables, nous nous rabaisserons au rang d'organes, de cellules, d'ouvriers biologiques, des cervelets conçus pour accompagner mécaniquement une seule tâche, toujours la même. Sais-tu ce que faisaient les soldats d'Arusson pour enrayer l'ulcération? Ils dépeçaient certains membres de l'équipe, prélevaient leur chair pour la coudre sur le trou, perçant l'épiderme de l'animal comme une ménagère qui pose une pièce sur un fond de culotte déchirée. Tu entends bien, des lambeaux d'hommes ou de femmes coupés au carré et cousus au fil à suture sur le ventre gigantesque de ce monstre endormi pour 1000 ans. Je les ai vus et j'en ai encore la nausée. Ils ont assassiné 10 des leurs de cette façon avant de renoncer quand le trou est devenu trop grand. Nous finirons tous comme eux, contaminés par la nourriture. Mais il y a des zones nutritives parfaitement saines, objecta Lisa. Le camp de base, par exemple. Saba haussa les épaules. Pauvre idiote. Le camp de base est mutagène comme les autres parties de la bête. Son action est simplement plus lente. Isijamine a examiné ses prélèvements plus soigneusement que ne l'a fait ce mollusque de Mikovski. Elle est formelle. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a que des régions à effet lent. Si les autres mutent en une semaine, nous, les chanceux, nous mettrons 2 ou 3 ans pour parvenir au même résultat. Mais nous muterons quand même, de façon irrémédiable. Dans tes veines, dans les miennes, court déjà le poison de la bête. Lorsque tu mâches cette viande que tu crois saine, tu avales, bouchée par bouchée, ta prochaine métamorphose. Examine soigneusement ton corps. Je suis sûre que tu y découvriras une quelconque anomalie. Promène ton nez sur la peau de Gott ou de Mikovski, je ne sais pas avec lequel tu couches, et fais le point tous les mois. Tu verras. Parfois, c'est seulement psychologique. Des idées fixes, des manies, des phobies, la hantise de la sepsie, de la désinfection, le besoin de toucher le sol de plus en plus fréquemment. Ce sont des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Crois-moi, Isijamine a raison. Mieux vaut mourir maintenant, entier, intact, que de se changer en caricature. Cette exigence est d'ailleurs une preuve de santé mentale, de parfaite intégrité morale. Mourir en homme et non en globule blanc. qui peut prétendre le contraire? Mikovski, c'est un lâche. Écoute-moi, Lisa, je parle pour ton bien. Si tu es d'accord, nous fuirons ensemble. Nous rejoindrons les troupes d'Izzy et nous travaillerons à la mort de la charogne. Lisa hocha la tête, prise de court. Elle ne voulait pas heurter l'exalté de front. D'ailleurs, sa diatribe était loin de l'absurdité, notamment en ce qui concernait l'inexistence de surface saine. La jeune femme avait toujours tiqué devant ce théorème. Ces régions immaculées, providentielles, semblaient peu compatibles avec la logique biologique d'un organisme vivant, même aussi surprenant que celui d'un hibernant du cosmos. Il n'y avait donc que deux cas de figure possibles. 1. Mikovski s'était bel et bien trompé. 2. Il avait menti sciemment dans le seul but d'éviter une panique générale. « Alors, chuchota la métisse impatiente. Il faut que je réfléchisse, objecta Lisa. Tout cela va trop vite pour moi. Tes révélations, les mensonges de Mikovski, il me faut un peu de temps. Tu as raison. Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Il va falloir traverser le territoire des partisans de l'extension. Ce sera dangereux. Nous y parviendrons peut-être en nous déplaçant dans l'ombre du vieux. C'est un modéré, un tiède. Je ne pense pas qu'on l'arrête. On va plutôt le consulter sur des points techniques. Il reste tout de même le chef de l'expédition. Et puis, on le sait, ennemi juré d'Izzy Jamine. C'est un bon point pour nous. Nous n'aurons qu'à nous accrocher à ses basques le temps du passage. Après, Lisa avait dressé l'oreille. Les partisans de l'extension, dis-tu, ils sont devant ? Saba eut un geste vague. Tu les verras demain. Une ville de toile au sommet d'un chancre, répugnant.